Je reviens au dossier santé, parce qu'on sait qu'à travers le Québec, on vit des périodes de délestage. Je le disais tantôt, il y a 4 niveaux. On a atteint le niveau 4 partout, à un point tel que Radio-Canada dit que le gouvernement pense à créer un niveau 5. Mais là, on va délester qui quoi quand on est dans un tel scénario. Tout ça pour avoir des lits devant la montée des cas d'hospitalisation. Et hier, le CIUS du nord de l'île de Montréal est devenu le premier CIUS à passer, en fait, au niveau 4 de délestage. Ça comprend notamment l'hôpital Sacré-Cœur. Docteur Patrick Bellemare est avec nous, qui est le chef médical des soins intensifs et intensivistes. Docteur Bellemare, bonjour.
Bonjour à vous.
Quand on arrive au niveau 4 du délestage, là, et que, malgré ça, tous les lits sont occupés, puis qu'on vous parle de passer au niveau 5, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement?
Ben, tous les lits sont occupés. Il y a des patients qui entrent, il y a des patients qui sortent. D'abord, dans la clientèle actuellement hospitalisée, il y a des gens qui n'ont plus besoin d'être en soins aigus, puis il y a des gens qui ont été admis pour des gestes semi-urgents ou électifs dont le séjour va se terminer. Puis en fait, ça fait partie du roulement normal d'un hôpital. Ça fait qu'on a l'impression, si la tendance se maintient, on va devoir maintenir l'interruption de certaines des activités semi-urgentes et électives. Puis ça, en soi, devrait faire en sorte que des lits se libèrent.
OK. Que les lits se libèrent pour des patients COVID.
Pour des patients, point, M. Arcan. Oui. Clairement, depuis 2 ans, on a changé notre sémantique en santé, puis on fait comme s'il existait le système de santé COVID puis le système de santé pour le reste de la population, alors que vous et moi savons très bien que les gens peuvent avoir d'autres problèmes de santé. Ils en ont. Puis actuellement, dans la clientèle hospitalisée COVID ou identifiée COVID, il y a des gens qui sont entrés à l'hôpital pour d'autres raisons chez qui on a fait le diagnostic fortuit d'infection à COVID, d'une part. D'autre part, il continue d'y avoir des accidents de la route, des infarctus, des AVC, des méningites, toutes les autres choses qui occupent généralement le système de santé. Ces choses-là vont continuer d'exister. Puis on essaie de faire de la place pour tout ça, pour les patients COVID, mais également les gens qui auraient des conditions urgentes.
OK, mais je sais qu'à chaque année, là, il y a des choix qui se font, il y a une certaine forme de retard, les fameuses listes d'attente. Là. Mais là, on est au mois de janvier 2022. Ce que je veux savoir, à partir de votre expérience, qu'est-ce qui explique ce boom en termes d'hospitalisation? Qu'est-ce qui explique que des gens voient des chirurgies reportées, puis des cas, là, de vos collègues médecins qui donnaient l'exemple d'une chirurgie, par exemple, pour un nodule au poumon dans le cadre d'un traitement de cancer qu'on ne peut pas faire, puis qu'on doit aller vers un traitement de chimio. C'est quoi la différence cette année?
La différence, c'est la démographie des infections. Là, les gens sont simultanément malades, puis dans le cas de la COVID, comme on a fait quelques parallèles dans le passé avec certains épisodes de grippe saisonnière, puis le bout approprié de ce parallèle-là, c'est que pour certaines souches de grippe, la contagiosité était élevée, il y avait beaucoup de gens infectés en même temps. Parmi ces gens-là, il y en avait des plus malades qui aboutissaient à l'hôpital. Ces patients-là augmentent la charge hospitalière et le font de façon récurrente. C'est que la COVID est un exemple extrême d'un problème très récurrent du réseau, où chaque fois qu'on entre dans une saison où il y a plus d'infections respiratoires, entre autres, on est susceptible de surcharger la ressource avec des patients infectés. Fait que dans le cas de la COVID, en particulier dans le cas des infections à Omicron, la particularité, c'est le nombre élevé d'infections simultanées et le nombre élevé de patients susceptibles d'être hospitalisés, alors que la ressource, elle, n'est pas élastique.
Et l'impact sur un horizon un peu plus long, là, c'est-à-dire, il y a des gens qui, par exemple, sont pas capable d'avoir, je dirais, un suivi médical comme tel parce qu'ils se font dire, ben là, on va voir plus tard, ou encore d'avoir accès à des examens, à du dépistage. Est-ce que ça risque pas? On va pas se retrouver, par exemple, avec un nombre plus élevé de gens qui vont avoir négligé leur santé pour toutes sortes de raisons, là?
Ben, la réponse est dans la question, M. Arcan. Je vous soumettrai dans la durée des mesures qu'on applique actuellement. Si on a un pic très soudain, très violent, je me permettrai de vous dire que c'est peut-être à certains égards préférable que ça se produise comme ça qu'un pic qui durerait plusieurs mois. Si on a à appliquer des mesures de contingence dans le réseau, je vais vous donner un exemple qui dissocie des infections. Là, il y a un concept à l'hôpital qu'on appelle celui du code orange, avec lequel, je ne sais pas si vous êtes familier.
Un peu, mais allez-y.
Ouais. Donc, vous avez un épisode soudain, comme une explosion dans une usine, où vous avez la tuerie de Dawson, où vous avez un viaduc qui s'effondre avec plusieurs victimes. Dans ces circonstances-là, on va déployer dans les hôpitaux un protocole qui s'appelle celui du code orange, où on interrompt essentiellement toute forme d'activité autre que la gestion des nouveaux blessés puis la gestion des extrêmes urgences. Le code orange, donc, c'est une version très instantanée de ce qu'on a fait sur des mois dans le contexte pandémique, où on redirige toutes les ressources vers la crise à laquelle il faut répondre. Puis dans ces cas-là, il y a des chirurgies d'annulées, il y a des gestes qui ne sont pas posés, il y a des gens qui attendent pour recevoir leurs soins, puis il y a des gens qui vont être soignés dans d'autres environnements ou avec d'autres modalités de soins que celles qui devraient être utilisées normalement. Puis il y a des gens qui vont être soumis à une forme de triage là, qui auraient dû avoir accès à un soin, qui n'ont pas accès à ce soin-là. Le code orange, ben c'est une technique de mitigation, c'est une technique de contingence qu'on utilise devant une crise. Puis dans le cas d'une crise sanitaire, c'est un peu un code orange de longue haleine qu'on applique. Puis l'impact sur le reste de la clientèle dépend beaucoup de la durée de ce que vous faites. C'est que si on a à retarder des chirurgies puis à différer des soins, mais qu'on a à le faire pendant quelques semaines, c'est quelque chose qui est gérable, puis on ne va pas accumuler des années de retard avec quelques semaines de chirurgie différée. Si on a quelques mois de chirurgie différée, c'est différent. Puis si en sortant de la crise, comme ça a été le cas au sortir des premières vagues, on se retrouve avec du personnel épuisé, une partie des gens qui changent de carrière ou qui s'infectent, puis qu'on n'est pas capable de reprendre le retard accumulé, ben c'est là qu'on est dans le trouble. Puis dans le cas actuel, si le passage en phase 4, on peut donner n'importe quel nom, cela étant dit aux phases, là, actuellement, on a interrompu les activités non urgentes pour se concentrer sur les activités urgentes puis extrêmement urgentes pour essayer d'accommoder toute la clientèle puis éviter d'avoir à faire des choix déchirants de triage. Puis de ce point de vue-là, c'est la chose à faire. Là.
OK, mais ça, c'est ma dernière question. Quand on parle de choix déchirant de triage, vous dites on n'est pas rendu là encore.
Bien, on n'est pas rendu là, puis on est rendu là. Je m'explique. Là.
Oui.
Au quotidien, dans la pratique, moi, je suis un gars de soins intensifs. Dans ma pratique quotidienne, ça arrive très régulièrement qu'il y a plusieurs candidats potentiels pour un accès aux soins intensifs, puis les places ne sont pas illimitées. Puis, comme soignant, avec l'équipe avec laquelle je travaille, on est obligé de temps en temps de prioriser une situation par rapport à une autre. Puis de ce point de vue-là, on en fait du triage, on en fait au quotidien. Ça fait partie de notre pratique.
Mais pour que les gens comprennent bien, ça veut dire quoi? Qu'un patient, selon votre liste de critères, là, puis je vais dire n'importe quoi, vous me corrigerez, là, mais qui est très âgé, qui est en fin de vie, il ne prendra pas la place de quelqu'un qui est, je ne sais pas, plus jeune, accidenté, pour qui l'espoir de survie est plus élevé?
Bien, le concept même du triage médical est basé sur le potentiel que la ressource a à aider le patient à survivre puis retourner à un niveau de vie acceptable. De ce point de vue-là, il va arriver, je vous donne un exemple hypothétique, là. Je me retrouve devant quelqu'un qui a une pneumonie, mais qui a également une démence avancée, qui a également plusieurs dysfonctions de plusieurs organes, chez qui l'épisode aigu qui va l'amener aux soins intensifs a une mortalité hospitalière de 95%. Je vais juste des chiffres comme ça.
Ouais.
C'est le genre de patient pour qui il va y avoir un ajustement de niveau de soins à faire avec les proches en expliquant que tous les gestes qu'on est capable de poser vont pas changer la finalité de la situation. Puis dans ces cas-là, c'est probablement pas approprié d'offrir la ressource. Puis si ça peut être approprié de dire on va plutôt procéder à des soins de confort parce qu'on est certain que, indépendamment de la disponibilité de la ressource, qu'on aurait à offrir dans un environnement de soins intensifs, ne ferait pas le travail. Ce type de discussion-là, on en a au quotidien dans un hôpital puis dans un environnement de soins aigus. puis il arrive régulièrement qu'on a des qu'on doit expliquer beaucoup aux proches, expliquer beaucoup aux patients eux-mêmes ce qu'on est capable d'offrir ou de pas offrir. Si vous avez un cancer généralisé, on peut pas vous faire une transplantation de tous les organes, même si on est capable de transplanter beaucoup d'organes. C'est pas quelque chose de logique, c'est pas quelque chose de raisonnable, puis c'est pas quelque chose qui fonctionnerait cliniquement.
Mais est-ce que ça veut dire qu'en période de pandémie, les choix peuvent devenir plus difficiles à faire?
C'est sûr. C'est sûr, mais en période de pandémie, la pandémie actuelle illustre un problème qui n'est pas un problème exclusif à cette année ou à la pandémie elle-même. Ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est qu'il est arrivé à répétition dans l'histoire qu'on ait une demande supérieure à ce que l'offre était en termes de soins de soins aigus et critiques. Puis dans ces cas-là, on doit parfois faire des choix déchirants, oui. La réponse la plus honnête, c'est ça.
OK. Docteur Bellemare, merci beaucoup. Bonne journée.
Je vous en prie. Bonne journée à vous.
Docteur Patrick Bellemare est le chef médical des soins intensifs. Il est intensiviste au CIUS du Nord de l'île de Montréal. Bon, voilà pour le portrait pour ces hôpitaux, mais on le voit à travers le Québec, là, et souvent, les cas étaient nombreux à Montréal, les problèmes étaient plus criants, peut-être, mais on voit le tableau partout au Québec où c'est en hausse dans l'ensemble de la province.